Cornelius Castoriadis, nous voici à Paris, 2 mois après cette première conversation dans un hôtel de Californie, et j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, et je me pose la question de l'action politique. En effet, si une nouvelle société à naître développe un nouveau système de signification imaginaire sociale, ce que vous appelez un système de signification imaginaire, qui est irréductible au précédent, nous ne pouvons donc pas, avec, disons, le système de pensée dont nous disposons aujourd'hui, penser cette société future à naître. Et au contraire, même, une fois qu'elle sera née, nous ne pourrons plus penser l'état dans lequel nous étions aujourd'hui qu'avec son nouveau système de signification imaginaire. Donc, problème de que faire, de l'action politique. D'autant plus qu'entre-temps, j'ai donc lu votre livre « Devant la guerre », dans lequel vous décrivez précisément l'émergence de quelque chose de nouveau, une nouvelle société en train de naître sous nos yeux, disons en Union soviétique, et que vous décrivez dans des termes assez terrifiants comme étant l'émergence, disons, d'un système militaire entièrement organisé autour de la force militaire et de l'idée de conquête. Alors, est-ce qu'il faut s'abandonner au pessimisme le plus total en disant de toute façon que faire puisque on ne peut rien penser de ce qui est à naître et qu'en plus ce qui se passe sous nos yeux n'est pas drôle, ou est-ce qu'on peut quand même dégager des principes d'action?
Oui, c'est des vastes questions, bien sûr. Moi, j'ai écrit Devant la guerre, si je peux dire, pour mobiliser les gens, n'est-ce pas? J'ai été pendant très longtemps préoccupé par le problème de la Russie, par la bureaucratisation qui a suivi la révolution de 1917, par ce qu'on a appelé le totalitarisme. Et il se trouve que, bon, pendant 10 ou 15 ans, je n'étais plus occupé tellement de cet aspect des problèmes comme j'avais repris mon travail philosophique et autres. Et puis, effectivement, pour moi, l'invasion d'Afghanistan c'était pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu, parce que je m'attendais à des actions de ce type de la part de la Russie. Mais ça a précipité une série de choses, ça a cristallisé une série de choses, et notamment, bien sûr, cette interrogation: comment est-il possible qu'une société qui est tellement délabrée pour tout ce qui ne concerne pas le militaire puisse mettre sur pied une puissance militaire aussi fantastique? Bon, ça a conduit aux analyses que vous avez vues peut-être dans ce livre, Devant la guerre, surtout dans le 4e chapitre. Et effectivement, ça me conduit à la constatation que le totalitarisme bureaucratique, en fait ce que j'avais appelé le capitalisme bureaucratique total et totalitaire, lorsqu'il reste au pouvoir pendant maintenant 60 ans, ben, il ne reste pas simplement le totalitarisme classique tel que, par exemple, Hannah Arendt a pu le décrire à propos du nazisme ou du stalinisme de la période, si je peux dire, héroïque, délirante, des grandes purges et des grands massacres. Bon, il a évolué de toute évidence, et effectivement, il s'est fait quelque chose de nouveau en Russie, ce que j'appelle la stratocratie. La difficulté qu'ont les gens à accepter cette idée, que je vois dans les critiques de mon bouquin, c'est qu'encore une fois, les gens ne peuvent faire face au nouveau. Dès que quelque chose de nouveau se présente, ils essayent de le réduire aux catégories passées. Si vous leur dites stratocratie, ils disent mais où sont les maréchaux qui dirigent? Ils pensent à Bonaparte, ils pensent à un dictateur latino-américain ou un prétorien, etc. Or, en fait, il y a un nouveau type de société qui se crée là, c'est une création historique, et effectivement, elle est terrifiante. Je dirais, pour ma part, elle est monstrueuse, parce que c'est un régime qui est destructeur des significations. C'est ça, sa pointe et sa cohésion, si j'ose dire. Ça paraît paradoxal, mais c'est le cas.
Bon. Vous montrez même dans le dernier chapitre en question comment justement le langage ne fonctionne plus et comment même un concept comme celui de beauté est atteint.
Voilà, et ça pour moi c'est très très important. Le langage est réduit à une fonction de pur code de communication aplatie pour transmettre des ordres et des consignes. Et le problème de la beauté, en effet, c'est-à-dire le problème de l'art, la question de la beauté est, à mon avis, un discriminant fantastique, parce que c'est effectivement le premier régime dans l'histoire où non seulement nous n'avons pas création de beau, mais nous avons ce que j'appelle une haine affirmative de la beauté, n'est-ce pas ? La beauté leur est insupportable, et ça d'ailleurs c'est pas seulement vrai pour la Russie, on le constate plus ou moins pour les partis communistes dans tous les pays du monde. Mais enfin, bon, alors il y a là une création monstrueuse, et là où nous nous attendions dans la société contemporaine à une création de notre type, à une évolution qui prendrait la suite du mouvement ouvrier révolutionnaire, comme l'ont montré les mouvements des femmes, les mouvements des jeunes, le mouvement écologiste, pour conduire à une transformation de la société, à l'instauration de ce que j'appelle une société autonome. Alors, le problème politique aujourd'hui, il y a l'angle très général sur lequel vous le posiez tout à l'heure, vous avez raison, et l'angle spécifique sur lequel nous sommes obligés de l'affronter à l'heure actuelle. Une nouvelle société à naître. Une nouvelle société ne peut effectivement naître que si, en même temps et du même mouvement, de nouvelles institutions apparaissent et que ces nouvelles institutions portent de nouvelles significations. Portent, je veux dire par là, de nouvelles valeurs, de nouvelles normes, de nouvelles façons de donner sens à la vie humaine, à la relation entre les hommes, à notre vie en général. Bon. Alors, qu'en est-il de ce point de vue dans la société contemporaine ? Laissons maintenant de côté le cauchemar de la Russie et le cauchemar d'une troisième guerre mondiale qui est suspendu sur nos têtes. Enfin, c'est pas pour l'oublier, mais enfin, mais la discussion. Eh bien, la situation, elle est contradictoire, parce que d'un côté, nous voyons dans cette société une série de tentatives de mettre sur pied de nouvelles formes de vie. Ces tentatives ont toujours commencé par la contestation de ce qui existait, n'est-ce pas ? Ça, c'est le cas, déjà, c'était le cas du véritable mouvement ouvrier, lorsque les ouvriers luttent contre les cadences, les conditions de travail, chaîne de fabrication dans une usine. Ils luttent contre une logique capitaliste de la production pour laquelle l'homme doit être simplement un écrou de la machine, un objet qui fonctionne dans la production, et on s'intéresse à rien d'autre. Mais il n'y a pas que cela, il y a la signification du mouvement de femmes qui est absolument fantastique, et le mouvement de femmes est beaucoup plus que les mouvements explicites organisés auxquels on a assisté depuis 10 ou 15 ans, n'est-ce pas ? Le mouvement des femmes, c'est ce qui commence vers le dernier tiers du 19e siècle, moyennant lequel les femmes commencent à pouvoir entrer dans l'éducation, modifier leur rapport à la maison, modifier leur rapport au mari, aux enfants, etc., acquérir des droits politiques. C'est un mouvement collectif très important, très diffus. Les noms qu'on peut attacher, ce sont les noms de personnes ou le nom de mouvements datés et signés. C'est la petite partie de l'affaire. Ça a été quelque chose qui a modifié la société à partir de ses profondeurs. Bon, pour les jeunes, il en est de même. Qu'est-ce que ces mouvements ont traduit, qu'il s'agisse des ouvriers, qu'il s'agisse des femmes, qu'il s'agisse des jeunes, ou qu'il s'agisse même du mouvement écologiste? Moi, je les ai depuis réfléchi dessus. Si je peux dire, regroupés tous sous le titre, si je peux dire, mouvement vers l'autonomie, à savoir tentative des différentes catégories de gens, de personnes, d'individus qui vivent dans la société actuelle, de ne plus subir l'institution telle qu'elle leur est donnée, mais de modifier cette institution. Bon, l'institution familiale a été déjà modifiée, dans sa réalité. Finalement, au bout de 50 ans, il y a eu aussi des petites modifications dans les lois écrites, dans les codes civils. Mais c'est pas ça la question. La réalité effective de l'institution familiale, si on la compare aujourd'hui en 1980 avec ce qu'elle pouvait être en 1880, en Angleterre victorienne ou en France, il n'y a pas tellement de différence, sauf peut-être un peu plus d'adultère dans les coins, mais c'est tout. Eh bien, cette institution a été modifiée. Mais cette modification, elle est loin d'être achevée, n'est-ce pas? Mais elle a été modifiée dans quel sens? Elle a été modifiée, évidemment, dans le sens d'une plus grande autonomie, non seulement des femmes, mais aussi des enfants, des nouvelles générations, etc. Ce n'est pas achevé. Ça soulève en même temps de nouveaux problèmes. Et puis, à mon avis, ça ne pourrait jamais aboutir vraiment simplement en tant que transformation de l'institution familiale. On le voit très bien, d'ailleurs, parce que ça met en cause toute une série d'autres choses. Ça met en cause, par exemple, le travail des femmes. Ça met en cause l'éducation, n'est-ce pas? Ça met en cause l'habitat aussi, etc. Bon. Donc, il y a ce mouvement de création de nouvelles normes, ou de, du moins de contestation, de destruction des anciennes normes, qui en même temps tend vers une création positive. Mais nous observons aussi, et c'est ça le tragique peut-être de l'époque contemporaine, le mouvement contraire. Le mouvement contraire, c'est pas tellement un mouvement comme on aurait pu le penser traditionnellement, ouvertement, fasciste. Il n'y a pas de fascisme ouvert dans les sociétés occidentales, ni un mouvement réactionnaire. Personne n'est réactionnaire, personne n'ose s'appeler réactionnaire. Tout le monde s'appelle partisan du progrès. Et ce progrès, comme c'est toujours la même chose, c'est la conservation, n'est-ce pas? Non, mais ce qui est le côté négatif, c'est ce que j'ai appelé depuis 20 ans et plus la privatisation des individus. C'est-à-dire ce mouvement qui fait que les individus abandonnent tous les terrains collectifs, qui se replient sur leur existence individuelle, personnelle, ou la petite existence familiale, qui ne se soucient de rien, qui dépasse leur cercle très étroit d'intérêt. Et ce mouvement est encouragé, bien entendu, par les couches dominantes, non pas qu'il y ait une conspiration consciente. Même l'expression est encouragée par les couches dominantes et mauvaises. Enfin, il est encouragé par toute la dynamique du système. Bon, ce qu'on appelait la société de consommation, c'est cela, n'est-ce pas? Acheter un nouveau téléviseur et taisez-vous. Bon, ou acheter le nouveau modèle de voiture et taisez-vous. Même la prétendue libération de la sexualité a été un peu dans ce sens, n'est-ce pas? Bon, voilà, vous voulez du sexe, on vous donne du sexe. On vous donne du porno et puis c'est terminé. C'est le mouvement économique, c'est aussi le mouvement politique. C'est par exemple la bureaucratisation de toutes les instances de vie collective. C'est faites-nous confiance, on est les experts, on est les techniciens, ou on est le parti de vos intérêts, on est le président que vous avez élu, on est le gouvernement que vous avez porté au pouvoir, donc hein, laissez-nous faire, vous verrez au bout de 5 ans ou au bout de 7 ans, par exemple. C'est-à-dire tout ce qui encourage l'apathie des individus, tout ce qui détruit l'espace public collectif comme un espace d'activité par laquelle les gens essayent de prendre en charge leur propre destin. Donc ça, on peut le constater en France, on peut le constater aux États-Unis, on peut le constater dans tous les pays occidentaux. Et cela, si vous voulez, si on prend uniquement cette tendance, dans une abstraction, en construisant un type idéal, si on prend uniquement cette tendance, eh bien, on aboutirait, encore une fois, faisant abstraction de cauchemars, de guerres, etc., on aboutirait à quoi? On aboutirait à une généralisation d'une société bureaucratisée mais molle, sans terreur, sans goulag, sans rien de tout cela. Tout simplement, les gens seraient amenés à faire ce que le régime, le pouvoir, les couches dominantes veulent, parce qu'ils seraient manipulés par la consommation, par les médias, par les organismes bureaucratiques qui exercent les pouvoirs gestionnaires dans les différents domaines, etc. Bon. Alors, voilà, il y a ces deux tendances contradictoires, et je crois, il ne peut pas être question de pessimisme ou d'optimisme, nous avons à rendre ces choses claires, à essayer d'aider les gens à prendre conscience de cela, et à essayer de les aider à agir, à lutter, à aller plus loin. Par exemple, bon, actuellement, il y a à nouveau ce problème, cette perspective plus exactement d'un affrontement entre les deux superpuissances. Bon. Vous savez que ça déclenche des mouvements par exemple en Allemagne,
pacifiste,
neutraliste, unilatéraliste. Bon, personnellement, je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'attitudes et de slogans qui accompagnent ces mouvements, qui la plupart du temps ont l'air de méconnaître totalement les véritables enjeux en cause, et aussi qui aboutissent, enfin c'est ça qui m'importe, aboutissent à des conclusions qui sont politiquement insoutenables. Je veux dire, le slogan « Une Europe dénucléarisée » de la Pologne au Portugal, c'est un slogan biologique, c'est pas un slogan politique. C'est-à-dire que nous autres Européens survivions, et que si les Russes et les Américains veulent se nucléariser les uns les autres, eh bien, grand bien leur fasse. C'est pas une politique qui est une attitude qui a un gramme de politique dedans, qui soit soutenable, et c'est évidemment une attitude qui n'a pas la moindre chance d'être entendu ni par la population américaine, ni même par la population russe, à supposer qu'il y ait des petits mouvements, n'est-ce pas, qui en Russie veuillent marcher dans cette direction. Bon. Mais il est incontestable que les gens devant cette menace prennent conscience que leur destin au sens le plus matériel, le plus direct, leur survie est entre les mains d'appareils bureaucratiques au Kremlin et à Washington, irrationnel, profondément irrationnel, qui, à part cela d'ailleurs, poursuivent leurs propres intérêts, qui n'ont rien à faire avec les intérêts de l'humanité, poursuivent chacun un plan de domination ou un plan de défense de la domination existante, mais ça revient au même. Donc, il y a là une secousse qui commence dans les sociétés occidentales, par exemple. Alors, est-ce que à partir de cette secousse, quelque chose ne peut pas se développer? C'est pas qu'il aille au-delà des simples slogans biologiques, encore une fois, dénucléarisons l'Europe, et qu'il devienne un mouvement contre la guerre, contre ces appareils militaro-industriels fantastiques, et qui par là même mettrait en cause et en jeu des enjeux beaucoup plus importants. Ça, je ne peux pas répondre d'avance. Moi, je suis tout disposé à agir dans ce sens, vous voyez.
C'était Recherche et pensée contemporaine. Aujourd'hui, Désordre et ordre par Cornelius Castoriadis. Mixage, Monique Burguière. Assistante de réalisation, Jacqueline Archambault. Une émission de Michel Tréguer. Bibliographie de Cornelius Castoriadis. Aux éditions du Seuil. L'institution imaginaire de la société. Les carrefours du labyrinthe. De l'écologie à l'autonomie, avec Daniel Cohn-Bendit. Aux éditions 10-18. La société bureaucratique. L'expérience du mouvement ouvrier. Capitalisme moderne et révolution. Le contenu du socialisme. La société française. Aux éditions Fayard, Devant la guerre.